livre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'était un paradis, ils en ont fait un enfer. Entre ciel et mer, l'archipel des Chagos a été abandonné, vendu aux mains des Occidentaux à la fin des années 60. Pour une base militaire, tout un peuple a été forcé à l'exil, déporté vers l'île Maurice essentiellement. En quelques années, les Britanniques ont vidé Diego Garcia et les autres îlots de l'océan Indien au mépris des droits les plus élémentaires. Des femmes, des enfants, des hommes ont été arrachés à leur terre natale sans jamais pourtant baisser les bras devant cette injustice.
Diego, peuple innocent, rends-nous pays natal.
Diego, peuple innocent, rendez-nous notre terre natale. Nos enfants avaient du travail à Diego. Rendez-nous, Diego, notre paradis. On veut retourner dans notre pays natal. Nos enfants doivent retrouver la terre de leurs grands-parents. Nos ancêtres sont dans des cimetières. Les Anglais, rendez-nous notre île.
Bonjour Caroline Laurent.
Bonjour.
Ce combat des Chagossiens et des Chagossiennes, dont on a entendu la voix ici dans un extrait du grand reportage d'Abdoulaye Erali sur RFI, vous le racontez dans votre nouveau roman, paru sous le titre « Rivage de la colère » aux éditions Les Escales. Une fiction où vous retracez 50 ans de lutte qui commence en 1968, a priori sur le point de s'achever grâce à un jugement en 2019 de la Cour pénale internationale de La Haye. Une histoire tragique trop peu connue à l'international et qui vous a été transmise par votre maman, originaire de l'île Maurice. Est-ce que pour commencer, vous voulez bien, Caroline Laurent, nous redonner le contexte géopolitique qui a mené à cet exil, cette déportation forcée ?
Alors, il faut imaginer que l'archipel des Chagos, qui se trouve au plein cœur de l'océan Indien, au sud des Maldives, a été rattaché pendant de très très nombreuses années à l'île Maurice, du temps où Maurice était elle-même sous domination britannique. C'était le monde colonial de l'époque. Et il se trouve effectivement qu'en 1968, l'île Maurice accède à l'indépendance, après 158 ans de colonie britannique, suite à un référendum. En revanche, ce que la population de l'époque ignorait, c'est que l'archipel des Chagos allait être détaché de son territoire. Ce chapelet d'îles, hein, perdu, effectivement éloigné de tout, eh bien, allait rester dans l'escarcelle des Anglais, lesquels Anglais allaient s'empresser de louer l'île principale, qui a pour nom Diego Garcia, aux Américains, qui allaient en faire en fait une base militaire.
Et donc, cette histoire, vous la racontez, cette grande histoire, et vous l'incarnez avec des personnages de fiction, à commencer par Marie-Pierre Ladouceur, qui vit à Diego Garcia, et dont on fait connaissance en 1967, donc juste avant que ce soit la fin des îles Chagos, telles qu'elles étaient auparavant, une femme que les événements vont transformer en activiste. Mais avant d'en arriver là, qui est cette Marie-Pierre et est-ce qu'elle vous a été inspirée par une personne réelle, par exemple ?
Alors, Marie-Pierre Ladouceur, dont le nom est vraiment caractéristique de ses noms créoles, est un personnage de fiction, effectivement, mais qui est un composite. Un composite de trois Chagossiennes qui ont réellement existé, qui ont été les premières à lutter pour regagner leurs droits et défier l'injustice, plus que la justice finalement, qui prévalait à cette époque. Et j'ai imaginé une femme qu'on découvre au début du livre, âgée de 22 ans, qui a pour caractéristique d'aller toujours pieds nus. Ça, c'était important pour moi, c'est une forme d'incarnation de la liberté. Et puis, ça disait aussi le rapport à la simplicité des choses qu'on trouvait à Diego Garcia à l'époque. Et cette femme, à 22 ans, a déjà une petite fille qui s'appelle Suzanne. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mari. C'est souvent ce qui se passe là-bas. Les hommes sont absents et les femmes ont installé naturellement une forme de matriarcat. Et cette femme, effectivement, est en attente. Elle est en attente de quelque chose qu'elle est elle-même incapable d'identifier. Et c'est un beau jour de 67 sur le bateau de ravitaillement qui venait, pour de vrai, historiquement, apporter aux Chagossiens tout ce dont ils étaient privés sur leurs îles. Alors ça allait de la farine au vin, en passant par le sucre et la viande. Eh bien, sur ce bateau viendra un certain Gabriel Némorin, qui est un Mauricien issu de la classe bourgeoise, catholique, favorisée, qui a un teint plutôt clair. Il est créole lui aussi, mais théolé, si on veut, plus clair que Marie, qui a la peau très, très noire, qui a la peau de ses descendants d'esclaves malgaches. Et ensemble, bien sûr, eh bien, il va se passer un certain nombre de choses.
Vous vous êtes inspirée, dites-vous, Caroline Laurent, de plusieurs femmes. Est-ce qu'il faut comprendre que les Chagossiennes sont montées au combat plus que les hommes ?
Elles ont été les premières, effectivement, à lutter, à protester et à manifester pour leurs droits. Historiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont très vite lancé des grèves de la faim. Et qu'elles étaient en première ligne aussi des manifestations vraiment à l'île Maurice, hein, devant le Haut Commissariat britannique. Tout simplement parce que les hommes à l'époque pensaient qu'on ne s'attaquerait pas aux femmes. Et donc les policiers ne s'en prendraient pas à elles, alors que si eux étaient en première ligne, ils risquaient de finir plus vite en prison. C'est pas exactement ce qui s'est passé, car il y a eu quand même des heurts et des émeutes assez nombreux. Mais les femmes, effectivement, étaient leaders parce qu'elles n'avaient pas le choix. Il fallait de toute façon donner à manger aux enfants, il fallait les faire grandir. Et dans les bidonvilles où elles se trouvaient, il n'y avait aucune solution possible. Donc c'était, d'une certaine façon, le combat ou la mort. Et elles ont choisi le combat.
Et en même temps, il faut quand même rappeler aussi les conditions. C'est que le peuple des Chagos n'a pas tout de suite compris qu'il était expulsé, puisque tout ça s'est fait vraiment dans le secret, puisque l'archipel était donc ce poste stratégique pour l'armée et les militaires. On les a laissés partir en bateau à Maurice sans leur dire qu'il n'y aurait pas de billet retour. Ensuite, il y a eu une forme d'embargo, on les a affamés, oui, privés de tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. Et la dernière étape, parce que ça s'est fait sur plusieurs années, ils ont là été expulsés manu militari, on est allé les chercher. Et donc, c'est pour ça peut-être aussi que la rébellion prend un peu de temps, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte immédiatement qu'ils sont chassés.
Alors effectivement, ça a été fait de manière larvée, souterraine, tout ça a été d'une certaine façon très bien orchestré par le gouvernement britannique dans l'ombre et le secret, avec l'appui du gouvernement mauricien de l'époque. C'était en pointillé et c'est pour ça que les choses ont été plus lentes. Mais c'est aussi bien sûr parce que la population chagossienne n'avait rien pour se défendre. Non seulement ils n'avaient pas alors d'armes, de structuration, sous forme d'armée, ça n'existait absolument pas là-bas.
C'est un peuple pacifiste,
totalement un peuple pacifique qui de toute façon vivait du travail du coco et de la pêche. Donc on était vraiment loin de toute forme d'organisation possible. Et surtout, et ça c'est une chose qui me tient à cœur, c'était à l'époque une population qui n'avait pas eu accès au savoir. Et si ces gens avaient eu la possibilité de lire, par exemple, tout simplement, certains documents qui leur étaient fournis ensuite, s'ils avaient la possibilité de comprendre l'anglais, qui était la langue, bien sûr, du colon de l'époque, mais que eux ne pratiquent pas, peut-être auraient-ils pu se défendre. Or, ils étaient analphabètes, ils n'avaient pas appris l'anglais, et tout s'est passé, finalement, sans qu'ils soient jamais concertés ou informés de leur destin tragique. Donc, c'est vraiment, pour moi, une tragédie de l'ignorance, une tragédie de la pauvreté et encore une fois, je pense, une tragédie du racisme parce que je ne suis pas certaine qu'on se serait comporté comme ça avec des populations blanches.
Et vous dites que ça vous tient à cœur ce thème, Caroline Laurent, non seulement parce que vous êtes écrivaine, romancière, mais aussi parce que vous êtes éditrice, donc parce que vous croyez au savoir et que ça libère et que ça aide les gens.
Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la révolte de ces Chagossiens, parce que ce qui est beau dans l'histoire, c'est que après ce drame, ils ont fini quand même par relever la tête. Et ce qui a été possible, eh bien, ça a été de défier effectivement le pouvoir parce que certains Chagossiens ont commencé à aller à l'école, ont commencé à être formés. C'est-à-dire que les puissances qu'ils ont finalement arrachées à leurs terres en les jetant à l'île Maurice sur les quais de la capitale à Port-Louis et les jetant dans une autre réalité économique, politique, idéologique, eh bien finalement les ont aussi entraînés vers l'école, vers le chemin de la rébellion, parce que depuis quelques années, ces jeunes, ces enfants aussi des déportés chagossiens, eux sont en mesure de lutter et de résister. Donc il y a une forme de transmission intéressante effectivement dans l'histoire de la révolte qui les concerne.
Et cette deuxième génération, nous allons en parler avec vous, Caroline Laurent, parce qu'effectivement, vous suivez la filiation et la transmission de cette rébellion. Restons encore un instant avec Marie-Pierre Ladouceur, qui incarne aussi donc le combat, mais elle incarne également les liens entre cet archipel des Chagos et l'île Maurice, puisqu'elle tombe, vous l'avez dit, amoureuse de Gabriel, un Mauricien avec qui elle a un enfant, Joséphin. Et il semblerait, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas en vous lisant, que c'était pas courant que les deux peuples s'unissent, parce qu'il y avait une forme de racisme, peut-être de mépris, des Mauriciens envers les Chagossiens. Est-ce que c'était le cas ?
Alors, il faut dire que la société mauricienne dans son ensemble est extrêmement clivée. Selon que vous appartenez à la communauté catholique, donc créole, hindoue indienne, musulmane indienne ou asiatique bouddhiste, c'est vrai que tout ça est très mélangé. Et au sein même de ces communautés, admettons la communauté créole, il y a des subdivisions. Donc un créole issu de la bonne bourgeoisie n'aura pas pour vocation à épouser une créole, comme on dit chez nous, issue des basses classes, qui serait vraiment issue d'un milieu défavorisé. Et les Chagossiens qui sont des créoles sont considérés comme des basses classes, parce que ils ont, encore une fois, une vie près de la nature, le coco, la pêche, et qu'ils sont assez éloignés du petit monde très francophile d'ailleurs, de la bourgeoisie créole de cette époque. Donc il y a évidemment des barrières, il y a des murs, et le fait qu'il y ait à un moment donné une union mixte, c'était extrêmement scandaleux, bien sûr.
Et donc ces Chagossiens qui arrivent à Port-Louis, abusés, spoliés, jetés dans la misère et l'incompréhension, une situation dramatique qu'ils racontent ici, avec ce témoignage sur place au micro d'Abdoulaye Erali sur RFI.
J'ai tout laissé au Chagos. J'ai apporté seulement ma paillasse, des oreillers pour mes enfants, c'est tout, et un peu de sucre. Tout est resté là-bas, abandonné. J'étais venu faire soigner mon enfant en 1968. Je ne savais pas que les îles étaient déjà vendues. Mon bébé est mort à Maurice, je voulais rentrer. C'est à ce moment-là que j'ai appris que le pays avait été vendu. Mais je me trouvais encore sur cette terre quand elle a été vendue. Sur l'île, si vous ne travaillez pas, c'est que vous êtes paresseux. Mais ici, on n'a pas de boulot. Vous savez ce que j'ai dû faire pour nourrir mes enfants ? J'ai fouillé les poubelles. J'attendais que personne ne me regarde pour sortir du pain rassis des poubelles. Je ne peux pas l'oublier, ça, même si j'ai obtenu le passeport britannique. J'ai beaucoup souffert, c'était un martyr, et nous souffrons encore.
Ou bien pas ce martyr, et nous encore peut souffrir.
Moi, j'ai la 13 ans, depuis moi, j'ai la 13 ans, dans sa gosse. Moi, j'ai la 13 ans, tout ça, j'ai coqué.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Caroline Laurent, avec qui nous parlons de son nouveau roman paru aux éditions Les Escales sous le titre Rivage de la colère. Une fiction, on l'a dit, qui incarne à travers le destin de Marie-Pierre Ladouceur et sa famille, la tragédie du peuple des Chagos déporté de son archipel à des fins économiques et militaire à partir de 1968, date de l'indépendance de l'île Maurice qui avait rétrocédé ses terres voisines à la couronne anglaise en échange d'argent. Un scandale, une expropriation détaillée ici dans votre fiction, Caroline Laurent. Et pour reprendre une partie de votre titre, la colère s'est également transmise à la deuxième génération, comme en témoigne cet extrait où l'on entend la voix de Joséphin, le fils de Marie et Gabriel, qui reprend le flambeau de la lutte et qui, en 2018, se rend à la Cour pénale internationale de La Haye défendre la cause des siens. Si vous voulez bien nous faire entendre la voix de votre personnage, Caroline Laurent, nous sommes page 127.
J'aurais préféré ne jamais naître. Ne pas avoir à endurer ça. 50 ans de combats, d'appels, de sollicitations, de réunions d'avocats, de procès, d'attentes. Pitié pour les Chagos, crie la presse aujourd'hui. Quelle pitié! Je vous la laisse, celle-là, je n'en veux pas. Justice, dignité, liberté des peuples. Ce que nous demandons à nos adversaires, inventeurs de ces valeurs, c'est de se les appliquer à eux-mêmes. J'accuse le gouvernement anglais de nous avoir monnayés et sacrifiés sur l'autel de la guerre froide. J'accuse le Premier ministre Harold Wilson de nous avoir rayés de la carte de notre propre pays. J'accuse les dirigeants mauriciens de l'époque d'avoir trahi l'indépendance. J'accuse les élites coloniales de nous avoir laissés dans l'ignorance. Pas d'école, pas de livres, pas de révolte. J'accuse l'armée américaine d'avoir fait de notre île une citadelle d'acier. J'accuse le silence qui entoure depuis trop longtemps notre drame. Il est temps de faire tomber les masques.
Littérature sans frontières.
Merci beaucoup Caroline Laurent pour cet extrait, cette lettre ouverte, cette nouvelle version du J'accuse d'Émile Zola dont on se souvient dans l'affaire Dreyfus. Et ici, on entend bien par la voix de Joséphin, et je pense que c'est aussi un des moteurs de votre roman, que c'est un sujet universel, que ça ne se passe pas uniquement dans un petit coin de l'océan Indien, que c'est un problème qui nous concerne tous.
C'est exactement ça, c'est que à travers le sort des Chagossiens est évoqué le sort de tous les déplacés, de tous les déracinés, de tous ceux à qui on n'a pas laissé le choix et ceux qui ne peuvent pas vivre là où ils sont nés. C'est un droit fondamental qui leur a été retiré et je crois vraiment que ce qui me touchait, outre les résonances plus intimes et plus personnelles puisque je suis moi-même franco-mauricienne, ce qui me touchait c'était ça, c'était le fait d'être déraciné et de voir que on n'apprenait jamais rien de l'histoire, finalement, puisque ça continue toujours, toujours.
Est-ce que vous aussi, vous avez écrit avec de la colère ?
Ah, la colère, elle est vraiment à la base, en fait, de ce roman. Cette colère, elle me vient de ma propre mère, qui a eu la chance, bien avant que les îles soient fermées et interdites à sa propre population, de vivre quelque temps au Chagos, à Diego Garcia. Et elle a connu ce paradis perdu, elle a connu ces plages de sable blanc comme le lait, ces eaux cristallines, la simplicité d'une île finalement qui revendiquait cette modestie. Et elle a suivi l'exil forcé des Chagossiens de manière assez douloureuse quand elle en a eu vent, puisque c'est arrivé bien après les événements eux-mêmes. Mais quand elle a appris ce qui s'était passé, je pense qu'elle a ressenti une forme de sentiment d'injustice violent. Et chaque fois qu'elle me racontait le drame des Chagos, il y avait dans sa voix cette fêlure, cette colère, cette rage, en disant « on les a vendus ». Voilà, on les a vendus, on a massacré finalement ce paradis perdu.
Ce qui est vrai, effectivement, mais en même temps, il faut reconnaître que, est-ce que tous les Mauriciens étaient vraiment au courant de la situation de ces Chagossiens qui arrivaient démunis, sans plus aucune ressource, obligés de se rassembler dans des bidonvilles? Et est-ce qu'ils ne les considéraient pas à tort comme voilà des sans domicile fixe et totalement ignorants de la situation où ils avaient été jetés?
Oui, le silence a été tout à fait orchestré par le gouvernement. Comme d'habitude, il faut faire une distinction entre le peuple lui-même et les puissants qui, eux, étaient plus qu'au courant puisqu'ils avaient signé ce détachement des Chagos. Alors certes, sous la pression, mais tout de même, ils avaient signé. Le peuple mauricien n'a appris vraiment que fort tard ce qui s'était passé, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de structure d'accueil, de même, j'allais dire, de solidarité avec les populations chagossiennes. Et les choses se sont faites petit à petit au fur et à mesure. Alors, pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, il est vrai aussi que il n'y avait pas forcément des mains tendues spontanément parce que la couleur de la peau, l'appartenance à tel ou tel milieu faisait que les disparités continuaient. Donc, il y a eu sans doute quand même quelques torts du côté des Mauriciens, mais fondamentalement, je pense que ce sont les Britanniques qui sont responsables de cette situation.
Vous dites, Caroline Laurent, en épilogue, que vous avez écrit ce livre pour votre maman.
Je l'ai écrit pour elle, puisque sans elle, je n'aurais jamais eu vent de cette histoire. Et puis, c'était une façon peut-être de lui redonner un bout de cette enfance si belle qu'elle avait connue et qui nous sera à tout jamais empêchée à cause de la fermeture des Chagos. Mais c'était aussi une manière, je pense, de redonner leur dignité à ces gens. Elle n'avait pas pu le faire, mais elle avait eu cette envie d'aller vers eux et de les soutenir. Et moi, par l'écriture, j'ai réussi peut-être à au moins les mettre en lumière.
Ce paradis perdu, vous ne l'avez pas connu, vous êtes trop jeune pour cela. De fait, comment est-ce que vous avez documenté ce roman qui, encore une fois, est une vraie fiction, une très grande histoire d'amour, de fraternité, de peuple. Et on ne peut pas entrer dans toutes les histoires, les secrets et les rebondissements malheureux. Mais néanmoins, cela s'appuie sur des faits réels. Donc, comment avez-vous travaillé, Caroline Laurent ?
Alors, j'ai véritablement enquêté pour écrire ce livre. Donc, il y avait les souvenirs de ma mère, qui pouvaient avoir une part d'ailleurs idéalisée, puisque c'était des souvenirs de fin d'enfance. Mais il me fallait aller au plus près de la réalité de ce qu'avaient vécu les Chagossiens. Et je suis entrée en contact avec Olivier Bancou, qui est le leader actuel de la cause chagossienne, qui se trouve toujours à l'île Maurice. Et je lui ai envoyé un mail, tout simplement, sans le connaître, pour lui parler de ce projet de livre que j'avais. Et il m'a répondu très rapidement, me proposant de le rencontrer, parce que c'est la chance qui veillait sur nous. Il allait voir sa fille à Londres. Alors, un vol Paris-Maurice, en une semaine, c'était compliqué, mais un vol Paris-Londres, c'était beaucoup plus envisageable. Et on s'est retrouvés chez sa fille pour une première discussion qui était très riche. Il m'a raconté son histoire, il m'a raconté l'histoire de sa mère, et transmis lui aussi un peu de cette colère qui continue à le faire avancer dans ce combat. Et puis après, je suis allée en fait à l'île Maurice, dans les archives chagossiennes. Et là, j'ai passé plusieurs jours au milieu des cartons, à éplucher les archives, à éplucher les photographies, des centaines et des centaines, les procès-verbaux, les comptes rendus historiques de procès. C'était une mine d'or, évidemment, extraordinaire. Et c'est suite à cette enquête-là que j'ai pu aussi rencontrer tous les chagossiens encore présents à Maurice, dont le doyen, qui a près de 90 ans, qui s'appelle Rosemont, et qui m'a raconté son histoire personnelle.
Et votre roman est traversé par la langue créole, c'est très important. Est-ce que c'était une langue que vous connaissiez, ou justement que vous avez apprise en retournant à Maurice, en rencontrant tous ces gens ?
C'est une autre langue maternelle pour moi. Je parle le créole mauricien. Ma mère a toujours eu des phrases, des expressions en créole, donc j'ai baigné dans ce monde-là. Et j'étais confrontée en réalité à un problème narratif dans ce roman, puisque laisser des phrases, j'allais dire, en vrai créole mauricien aurait été compliqué pour le lecteur français, parce que spontanément à l'écrit, le créole est une langue orale souvent, à l'écrit, tout simplement, les gens ne comprenaient pas. Donc j'ai dû trouver un stratagème littéraire, et ce stratagème, c'est finalement de franciser le créole. C'est-à-dire que je me suis presque traduite du créole en français pour garder les structures syntaxiques, pour garder les images, les couleurs, j'allais dire aussi, dans les expressions, en permettant tout de même au lecteur français de comprendre tout de suite de quoi il retournait. Donc il y a eu un travail assez étrange pour moi, mais très savoureux, de traduction du créole vers le français.
Et où en sommes-nous aujourd'hui, puisque en 2019, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une très large majorité, une résolution donnant 6 mois à Londres pour procéder à la rétrocession. Ce délai a pris fin en novembre 2019 sans que le Royaume-Uni se conforme à cette résolution, alors que la Cour aussi, je l'ai dit, internationale de justice avait demandé à Londres de mettre fin dans les brefs délais à son administration des Chagos. Donc, quelle est la situation aujourd'hui, Caroline Laurent?
C'est vraiment Sisyphe, c'est-à-dire que chaque victoire est cassée par un nouveau jugement de la Cour de Londres ou de Sa Majesté, puisqu'il y a eu des décrets royaux qui ont cassé des jugements en faveur des Chagossiens. C'est un combat sans fin. Le prochain procès se tiendra au mois de mai 2020 à la Haute Cour de Londres, donc à nouveau, il faudra y retourner, tenter de plaider sa cause. Mais je crois que ce qui est pour moi très émouvant, c'est finalement cette force, cette foi, ce courage, je ne sais quel terme employer, de ces Chagossiens qui ont face à eux le Royaume-Uni et quand même indirectement les États-Unis, qui au fond d'eux, je crois, savent bien que ce sera très compliqué de récupérer leurs îles, leurs territoires. On a une base militaire hein, quand même en face d'eux.
Oui, à l'heure d'un terrorisme mondial exponentiel, où effectivement on a du mal à imaginer que les Américains vont enlever une base stratégique dans l'océan Indien.
Moi, à mon avis, ils n'y renonceront pas. Je ne crois pas. J'aimerais beaucoup, mais je n'y crois pas. Mais ce qui est beau dans le geste de ces Chagossiens, c'est le fait d'y retourner malgré tout. Qu'est-ce que ça veut dire que de se lever le matin en sachant qu'on a face à soi le Royaume-Uni et les États-Unis, de savoir que les chances de gagner sont très très faibles, et malgré tout d'y retourner? Ce qui est admirable dans leur combat. Et je leur souhaite peut-être au moins de regagner les îles du Nord, Péros Banios et Salomon, qui, elles, ne sont pas des bases militaires, contrairement à Diego Garcia. Ce serait peut-être le moyen terme acceptable pour les deux parties, et ce serait un premier pas vers la victoire.
Il est temps que le monde les entende. Est-ce que la littérature peut être un porte-voix, Caroline Laurent?
C'est évidemment mon intuition de romancière et mon espoir de citoyenne. Je crois que la littérature permet de faire vivre évidemment pleinement des destins que nous n'avons pas connus, et qu'à ce titre, elle crée l'empathie, elle crée l'écoute et possiblement l'engagement. C'est ainsi que j'ai conçu ce roman, et j'espère véritablement qu'il sera une petite pierre sur le chemin de leur victoire.
Et au moins un cadeau pour les Chagossiens, ou vous leur restituez une dignité, une histoire, une légitimité?
J'aimerais juste qu'ils existent aujourd'hui.
Oui.
Pour moi, c'est ça, c'est leur donner une place.
Qu'ils soient présents à nouveau dans la littérature, parce qu'à ma connaissance, il y a assez peu de fiction consacrée à ce sujet. Il y a Jean-Marie Gustave Le Clézio, évidemment notre grand prix Nobel de littérature, qui a écrit des textes, mais des essais, pas des fictions.
Alors, ce que Jean-Marie Gustave Le Clézio a fait, et on peut le signaler ici, c'est qu'il a écrit une lettre, lui, Nobel de littérature, à Barack Obama, Nobel de la paix, pour l'interpeller sur le sort des Chagos et lui demander d'intervenir pour retirer la base militaire. Bon, malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits, mais il a eu ce geste-là. Et on peut citer en fiction le livre de Shehnaz Patel, qui est une auteure mauricienne et qui a écrit Le silence des Chagos, que je cite en épigraphe d'ailleurs, un petit hommage, qui est aussi un très beau roman sur cette histoire-là.
Mais vous n'êtes pas si nombreux ni
nombreuses.
Non,
très très peu, très très peu.
Il est temps que ça change.
Il est temps que ça change, et j'espère que ce livre ouvrira le chemin.
En tout cas, ouvrira les yeux et le cœur de tous. Merci beaucoup, Caroline.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce très beau roman, Rivage de la colère, qui a paru aux éditions Les Escales.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.
C'est un sourire un peu crispé. Hein,
Allez, les cordères de fin de match.
Ça devient dur de se relever.
Deux minutes dans
Alors, je ne vous dis pas la prolongation.
Heureusement que c'est bientôt fini.
Ah non, oui, la prolongation, ça va être de plus.